l'évangile de Luc au chapitre 17. Évangile de Luc au chapitre 17. Et le texte que je vous propose de méditer ce matin se trouve à partir du verset 11. Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à bonne distance, ils élevèrent la voix et se mirent à crier : « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva sur la route qu'ils furent guéris. L'un des 10, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis Jésus lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Des récits de miracles, et notamment de guérisons, il y en a beaucoup dans les évangiles. Les évangélistes ne nous les racontent pas seulement pour dire que Jésus était formidable et qu'il accomplissait des choses extraordinaires. Jésus lui-même se méfiait d'une popularité basée sur ses miracles. Ils nous sont racontés parce qu'ils ont valeur de signes et qu'ils sont toujours l'occasion d'une rencontre. L'occasion d'une rencontre avec des gens qui souffrent, des gens qui sont en détresse et qui trouvent en Jésus une libération. En général, ces rencontres se transforment en leçons de vie, en leçons de foi. Et la leçon que nous en retiendrons ce matin, c'est une leçon sur la foi et sur la confiance. D'emblée, à la lecture de ce texte, une question se pose. Est-ce vraiment Jésus qui a guéri les 10 lépreux ou pas ? Certaines guérisons dans les évangiles ne laissent pas d'ambiguïté. Les paroles et les gestes de Jésus sont explicites. Pas ici. Jésus leur dit simplement d'aller se montrer au prêtre. Et il se trouve qu'en chemin, ils sont guéris. Mais au moins pour l'un des 10 lépreux, il n'y a aucun doute. C'est Jésus qui les a guéris. Et la question que j'aimerais que nous nous posions ce matin, c'est pourquoi Jésus s'y prend-il ainsi ? Il n'est pas en train de se débarrasser d'eux. Il ne leur dit pas « Allez voir les prêtres ». Mais Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et ce n'est pas la même chose. À l'époque de Jésus, on ne distinguait pas vraiment la lèpre d'autres maladies de peau plus ou moins graves. Deux chapitres entiers du livre de Lévitique sont consacrés aux lépreux, avec une description terrible de cette maladie. Puis il y a tout un chapitre, le Lévitique au chapitre 14, où il nous est écrit les rites de purification à accomplir une fois que le lépreux était guéri. À l'époque de Jésus, la lèpre était considérée non seulement comme une maladie, mais également comme une malédiction, un signe d'impureté, une image du péché. Ce qui faisait à l'époque de Jésus des lépreux des parias. Et quand ils se déplaçaient, ils étaient sommés, obligés de faire tinter une clochette, ce qui permettait aux gens de s'éloigner et parfois même de leur jeter des pierres. Obligés de vivre en marge de la société, ils ne devaient avoir aucun contact avec les gens, sous risque de les rendre impurs à leur contact. Et on le voit dans notre récit de ce matin, les dix lépreux se tiennent à bonne distance de Jésus. Ce qui les oblige, pour s'adresser à Jésus, de crier. Aie pitié de nous ! Or, un lépreux allait se monter au prêtre au tout début de sa maladie pour que le prêtre le déclare impur. Il s'avérait qu'il retournait voir le prêtre lorsqu'il était guéri pour que le prêtre constate la guérison. L'authentification de leur guérison leur permettait de retrouver une vie sociale. C'est évidemment le deuxième cas qui concernait les lépreux de notre récit. À l'exception près qu'ils n'étaient pas encore guéris. En fait, si vous regardez bien le texte, vous vous apercevrez que Jésus fait appel à leur foi. En leur disant d'aller se montrer aux prêtres, Jésus les envoie avec une promesse de guérison. Ce qui veut dire que Jésus met leur foi à l'épreuve. Et ils le font. Tous les dix. En cela, les dix lépreux font preuve de foi. Et en chemin, ils sont bel et bien guéris. Les dix lépreux illustrent de façon impressionnante ce qu'est fondamentalement la foi. Qu'est-ce que la foi ? Je visitais un contact cette semaine qui me disait « Je rêve d'avoir une foi comme vous, monsieur le pasteur. Est-ce que c'est possible d'avoir la même foi ?» Comme si la foi était quelque chose qui nous tombait dessus comme la pluie. Qu'est-ce que la foi ? Sommes-nous au moins clairs dans la définition de ce que nous croyons. La foi, c'est une confiance placée dans la parole du Christ. Une confiance qui s'exprime alors même qu'on ne possède pas encore ce qu'on espère, qu'on ne voit pas encore ce qui nous est promis. La foi ne se démontre pas. Elle n'est fondée ni sur la vue, ni sur la raison. Elle est fondamentalement un choix. C'est une décision de placer sa foi en Jésus-Christ. Et la foi, c'est ce qui nous met en marche. Car, comme je l'ai dit il y a quelques dimanches, je vous en rappelais très certainement, la vie chrétienne est un chemin sur lequel nous marchons. Et ce qui nous permet de nous mettre en chemin, c'est précisément la foi. Et c'est cette mise en marche qui nous permet d'entrer dans les promesses de Dieu. Mais le récit ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose dans ce texte qui cloche. Les 10 lépreux ont une confiance dans la parole de Jésus et les 10 sont guéris. Mais il n'y en a qu'un seul qui revient auprès de Jésus. Pourquoi ? Est-ce de l'ingratitude ? Peut-être. Ou alors, ils ont privilégié l'obéissance au rite, à la reconnaissance spontanée envers celui qui les a guéris. Je vous fais grâce du grec, mais pour ceux qui sont un peu hellénistes parmi nous, regardez le texte et vous verrez que quand Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre », ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Et pays d'extast, outon théo. Va voir les prêtres. C'est un ordre. Et peut-être bien que les 9 autres lépreux n'ont qu'un désir, c'est d'obéir à Jésus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus s'en étonne. Où sont les 9 autres ? Celui qui est revenu n'est pas allé voir les prêtres. Et pardonnez-moi de vous le rappeler, mais c'est un hors-la-loi. Parce que c'est une obligation. On ne sait pas s'il est allé les voir après, être revenu auprès de Jésus. Mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr pour moi, en tout cas pour moi c'est sûr, pour vous peut-être moins, c'est qu'il a considéré ce lépreux comme une priorité d'interrompre cet acte rituel pour aller exprimer à Jésus sa reconnaissance. Et en plus de ça, regardez le texte, il lui apporte un hommage digne de Dieu lui-même. J'espère que vous l'avez noté, parce que c'est très très important. Il se prosterne devant Jésus. Qu'est-ce qui fait la différence entre la foi du lépreux revenu auprès de Jésus et celle des 9 autres ? Les 10 lépreux ont fait preuve de foi. Un seul fait preuve de reconnaissance et d'attachement à Jésus. Et c'est cette foi-là que Jésus montre en exemple. « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Et la différence, elle est là. La différence, mes amis, elle est dans l'attachement à Jésus-Christ. La foi ne peut pas se contenter simplement d'une mise en marche dans la confiance. elle doit s'enraciner dans un attachement à Jésus-Christ. Un attachement au-delà des religions, un attachement au-delà des rites. Il y a une spontanéité chez le lépreux de notre récit qui est l'expression même d'une foi vivante et authentique. Alors, oui, il y a problème. Il y a problème parce que ce lépreux que Jésus donne en exemple ne respecte pas scrupuleusement ce qui était commandé par la loi de Moïse. Et si je pousse le bouchon un peu plus loin, comme disent les Marseillais, il ne respecte pas scrupuleusement l'ordre de Jésus. Et pourtant, c'est ce qui va plaire à Jésus. Parce qu'il témoigne d'une foi qui est authentique, parce qu'il témoigne d'une foi qui est vraie. Il ne s'agit pas de remettre en cause la réalité de la foi des 9 autres lépreux. Eux aussi ont été guéris. Ce qu'il faut ici, c'est souligner l'exemple de foi vivante du 10e. Or, la foi vivante que le Christ attend de nous, ce n'est pas un attachement à un rite. Il y a quelques années, j'étais au musée du désert. Vous connaissez le musée du désert, près de Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, et qui raconte l'histoire des protestants pendant le désert, après la révocation de l'édit de Nantes. Et je discutais avec une dame qui avait une croix huguenote autour du cou et qui visiblement était fière de ses racines huguenotes. Et elle me disait « Je suis protestante, mes parents étaient protestants, mes grands-parents étaient protestants. Et si vous regardez ici sur le fronton gravé dans le marbre, il y a le nom de mes ancêtres qui sont morts aux galères pour leur foi. » Je lui dis « Mais c'est fantastique !» Et à un moment donné, j'ai parlé avec elle, je lui dis « De quelle paroisse est-ce que vous êtes ?» Oh, elle m'a dit « Je vais plus au temple. » Une foi vivante, ce n'est pas une foi qui s'attache à un rite, ce n'est pas une foi qui s'attache à une doctrine, ce n'est pas une foi qui s'attache à une religion, car disons-le, oui, nous sommes protestants. C'est une étiquette. Vous comme moi, quand vous allez dans une grande surface et que vous avez besoin d'une boîte de raviolis, qu'est-ce qui vous dit que vous tenez dans votre main une boîte de raviolis ? C'est l'étiquette. Si dans toutes les grandes surfaces on virait les étiquettes, vous ne saurez pas du tout si vous prenez une boîte d'haricots, de petits pois ou que sais-je. C'est l'étiquette qui vous permet. Alors j'ai une étiquette, et je suis fier de cette étiquette. Je suis protestant évangélique. Mais ce n'est pas parce que je suis protestant évangélique que ça fait de moi quelqu'un de sauvé. La foi en Jésus-Christ ne s'attache pas à une religion, elle s'attache à une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et je dis moi, mieux vaut une foi spontanée et vivante, quitte à sortir un tout petit peu du cadre prévu, qu'une foi réduite à une stricte observance d'un rite ou d'une croyance. Il y a tellement de gens dans ce monde qui ne font que des rites à leur croyance et qui ne mènent à rien. Vous le savez, je reviens d'Israël. Et c'est fou ce qu'on peut observer comme rite là-bas. J'allais prendre un ascenseur et le gardien me dit « Non, pas celui-ci, celui de droite !» Et je me suis souvenu que c'était le jour du Shabbat. Et que le jour du Shabbat, on n'appuie pas sur le bouton. Parce que c'est un effort et la loi l'interdit. Alors on prend l'ascenseur du Shabbat qui s'arrête à tous les étages. Comme ça, on n'a pas besoin d'appuyer. c'est le respect du Shabbat. La foi, mes amis, la foi vivante que le Christ attend de nous, c'est un attachement à Jésus-Christ, pas un attachement à un rite ou une croyance. Et pourtant, avouons, vous et moi peut-être en premier, nous avons parfois du mal à accepter en notre sein des hommes et des femmes qui sont hors cadre. D'une manière ou d'une autre, on a du mal à accueillir celui qui ne prie pas comme nous, qui ne vit pas sa foi comme nous. Dans tout groupe constitué, il y a une tendance forte à vouloir accueillir, en intégrant de gré ou de force, sa propre culture, ses propres valeurs, selon des normes, selon un modèle préconisé. Et avouons-le, cette tendance, elle existe aussi dans nos églises évangéliques. Mais un détail mérite d'être souligné dans notre récit. Un tout petit détail. D'autant que Jésus le fait lui-même. L'homme regardait le texte et donnait en exemple par sa foi. Or, cet homme, c'est un Samaritain. Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Là encore, je vais vous faire grâce du grec, mais relisez-le pour ceux qui arrivent à lire le grec. Jésus n'est pas tendre. Et si je traduis mot pour mot, il y en avait 10, il n'y en a plus qu'un qui rend gloire à Dieu, et celui-ci, ce n'est qu'un étranger. Le mot halogénès, que vous trouvez ici, qui signifie littéralement étranger, souligne la piètre opinion que les Juifs du temps de Jésus avaient des Samaritains. Les Juifs et les Samaritains à l'époque de Jésus, c'était des véritables frères ennemis. Les Samaritains et les Juifs ne s'appréciaient pas du tout. Pourtant, devant ses disciples, Jésus donne en exemple cet étranger. D'ailleurs, quand on considère les évangiles, il faut bien reconnaître que ce que Jésus donne en exemple quant à leur foi sont très rarement des juifs pieux. C'est toujours des non-juifs. Ici, c'est un Samaritain. Ailleurs, c'est un collecteur d'impôts. C'est une femme païenne. Peut-être bien que si Jésus était à ma place ce matin, il prendrait pour exemple un Rome ou un sans-papier. Jésus va même dire aux pharisiens que les collecteurs d'impôts, que les prostituées, les dévanceront devant le royaume de Dieu. On lui a d'ailleurs suffisamment reproché de fréquenter des gens de mauvaise vie. On le sait, c'est pas un secret. Jésus aimait être à table avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées. Je suis à peu près certain, moi, que si Jésus entrait dans l'église aujourd'hui, incognito, on le mettrait à la porte de nos églises. En tout cas, on se poserait des questions, parce que quelqu'un qui partage des repas avec les prostituées, excusez-moi, on n'hésiterait pas à lui dire ce qu'on pense de lui. Et pourtant, Jésus a toujours été du côté des plus faibles. Jésus a toujours été à côté des rejetés, non pas parce qu'il exalterait la faiblesse ou le fait d'être marginal en tant que tel, mais parce que Jésus est auprès de ceux qui savent reconnaître leurs besoins de lui. Est-ce que nous savons reconnaître le besoin qui est le nôtre ce matin de nous approcher de Jésus ? Quelqu'un disait « Il n'y a rien de pire que le confort pour croire qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux parce que le royaume des cieux, il est pour eux. Alors, je termine. Qu'est-ce que nous retiendrons de ce récit ? Une leçon de foi de ce lépreux samaritain guéri, et plus encore après sa guérison qu'avant. Parce que sa foi s'exprime non seulement dans la confiance qu'il a placée dans la parole de Jésus-Christ, mais surtout dans son attachement joyeux et enthousiasme au Christ qui l'a sauvé. C'est cette foi-là que Jésus-Christ montre en exemple. Un exemple qui souligne l'importance d'une foi vivante et authentique, plus spontanée que soumise au rite. Une foi qui s'attache moins à une religion qu'à une personne, le Christ vivant. C'est l'attachement à Jésus-Christ qui est la sève et qui rend notre foi vivante. Et la vie ne peut être limitée par des carcans, des rites, des traditions, des exemples un peu hors cadre comme les évangiles en contiennent. Ils sont là pour nous les rappeler. Soyons vivants, soyons attachés au Christ vivant. Ça sera notre leçon pour ce matin. Restons attachés au Christ vivant. Soyons vivants. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, ta parole est douce comme du miel, mais cette même parole peut être parfois cinglante. Et ce matin, Seigneur, bien que nous soyons des hommes et des femmes que tu as déjà bénis, nous sentons le besoin d'une nouvelle rencontre avec toi, de nous voir tel que toi tu nous vois, et non pas comme nous nous voyons nous. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi, une foi vivante, une foi qui chemine, une foi qui marche, une foi qui fait confiance. Nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que tu mérites cette confiance. Et pour cela, nous t'adorons. Amen.